Gloire au Seigneur. Je pense que nous avons été bénis par ces moments que nous avons pu passer, par ces chants, par ces paroles qui sont profondes. Et nous sommes bénis si nous laissons ces paroles, la parole de Dieu bien sûr, pénétrer dans notre cœur et venir façonner notre être, notre vie tout entière. J'aimerais sans plus tarder qu'on puisse ouvrir le Saint-Livre dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Premier livre des Chroniques, chapitre 21, au verset 14, nous lisons « L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée, nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple ? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait ? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses quatre fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors le froment. Lorsque David arriva près d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et il se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 sicles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel avait exaucé dans l'air d'Ornan, le Jébusien y offrit des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Amen. C'est un texte qui est frappant. Je ne sais pas comment vous l'avez appréhendé, si c'est la première fois que vous le lisez. En tout cas, on n'a pas tout lu, mais on peut comprendre parce que David va le dire. David va pécher. Il va demander le dénombrement du peuple. Et on n'a pas le temps de revenir sur tout le contexte, mais quand même, il était bon de comprendre cela. Son fidèle compagnon Joab va lui dire, « Mais non, ne demande pas cela. Que mon Seigneur, que ton armée puisse grandir, que tu puisses avoir encore beaucoup de choses, mais ne demande pas cela. » Mais David va persister dans cette idée. Et Dieu va s'adresser à lui en lui disant, « Mais voilà, je te propose trois fléaux. Trois fléaux. » Et vous savez, malgré ses erreurs, malgré son péché, David, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, qui avait cette intimité profonde avec Dieu. Il le connaissait. Et il va dire, mais je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que Dieu est compatissant. Il a compassion de l'homme. Il a compassion et il aura sûrement compassion de mon peuple. Et j'ai noté dans une autre version ce que David va dire. Il va dire, de tous côtés, l'angoisse me presse. Cependant, il est meilleur pour moi de tomber entre les mains du Seigneur, car il est plein de miséricorde. Et on y voit là vraiment le cœur de David qui est dévoilé, qui connaissait Dieu. Mais le sujet de cet après-midi, ce n'est pas cela. C'était les prémices, c'était ce qui va suivre, qui nous intéresse, parce que David est dans le désarroi, parce que l'ange a commencé. Des hommes vont mourir et David va voir le désastre, la conséquence de son péché. David va être là et alors qu'il va voir l'ange, l'épée à la main, il va y avoir une repentance sincère et on y reviendra. Parce que c'est ce qui a toujours sauvé David, de comprendre qu'il avait heurté le cœur de Dieu. Et c'est ce qui pour nous peut toujours nous sauver, nous ramener dans la présence de Dieu, c'est de comprendre qu'il y a toujours, en tout cas pour l'instant, une porte ouverte suite à la repentance. Et alors que David va se repentir sincèrement, alors qu'il va avoir dans son cœur vraiment cette réalité, l'horreur de son péché, Dieu va lui parler. Et on va arriver vraiment au cœur du message. Dieu va lui parler et va lui dire, mais voilà, va, monte sur l'air, d'ornant le Jébusien, pour y bâtir là un autel. Et c'est sur ce moment-là que nous allons nous appesantir quelques instants. Vous savez, c'est un peu surprenant parce que nous l'avons lu à la fin de ce chapitre. Il y avait déjà là un emplacement pour un autel. Il nous est dit que Moïse avait déjà préparé et ça existait encore. Dieu aurait pu dire à David, mais voilà, va à l'autel que Moïse a préparé, va à cet endroit-là, présente ton offrande, présente ton holocauste et tout va s'arrêter. Mais ce n'est pas ce que Dieu va demander à David. Et je pense cet après-midi, nous sommes là rassemblés, il y a parmi nous des personnes qui sont engagées au travers du baptême, qui ont manifesté leur engagement, qui ont pris le Saint-Repas, la Sainte-Cène. Il y a parmi nous des amis qui vont s'engager, qui connaissent Jésus-Christ, mais qui n'ont pas encore pris cet engagement. Il y a parmi nous d'autres personnes que peut-être vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, peut-être vous restez en retrait. Mais je pense que ce qui s'est passé pour David à ce moment-là, précis dans l'histoire du peuple d'Israël, dans sa propre histoire, c'est quelque chose qui est valable et qui est toujours actuel pour nous. Lorsque nous lisons l'histoire, lorsque nous avons lu ces quelques versets, ce qui s'est passé, nous pouvons penser, mais Ornan le Jébusien, il est bien sympathique. C'était quelqu'un, lorsque nous lisons le texte, nous pouvons dire, mais il était bien, il était sympa, il a voulu tout donner à David, il était avenant, il avait, on pourrait dire, avec une expression moderne, il avait le cœur sur la main. Mais je ne pense pas qu'il faut comprendre ce texte de cette manière-là. Je ne pense pas que dans la volonté de Dieu, lorsque Dieu dit à David, mais va sur l'air, présente ton offrande, fais un autel ici, ça soit juste et uniquement parce que Ornan le Jébusien était quelqu'un de sympathique. Vous savez, les Jébusiens, c'était un peuple dont on en parle il y a fort longtemps dans la parole. Lorsque le peuple était encore en Égypte, Dieu va proclamer une promesse, une délivrance, et je le lis pour vous. Il va dire, « Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. » Pour le délivrer, délivrer le peuple, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phériziens, les Héviens et les Jébusiens. Tiens donc, les Jébusiens sont là. Ce n'était pas un peuple qui était ami de Dieu. c'était pas dans la volonté de Dieu que Israël cohabite avec les Jébusiens. Dans un autre texte, et si vous avez une concordance, vous pouvez voir Jébusiens et tous les passages auxquels se réfère ce nom de tribu. Dans le Deutéronome, il est écrit « Car tu dévoueras ces peuples par interdit. » Les Héviens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérisiens, les Héviens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Ça se précise. Et là, c'est juste le rappel d'un commandement de Dieu. Et c'était vraiment dans la volonté de Dieu que Israël, et vous le savez, que en tout cas Dieu a maintes et maintes fois avertit son peuple pour qu'il ne s'allie pas avec des tribus étrangères, des peuples étrangers, parce qu'il savait, Dieu sait que notre cœur est tellement facile, se laisse tellement fléchir facilement. Et Dieu a toujours prévenu son peuple en disant « Mais restez-moi attaché, restez-moi fidèle, n'allez pas vers les autres parce qu'ils vont vous courber, ils vont vous entraîner sur une mauvaise voie. » Et on comprend aisément que les Jébusiens n'avaient aucune part à faire avec les Israélites. Mais simplement, voilà, il y a dans le livre de Josué ce verset qui vraiment nous montre la situation. Et je pense que c'est une situation qui peut être un piège dans notre propre vie. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Et là, ça a été un problème. Et là, c'est un problème. Parce que, peut-être vous me voyez venir, mais lorsque, dans notre vie, nous voulons nous donner à Dieu, nous nous sommes donnés à Dieu, lorsque nous aimons sa parole, nous aimons nous éloigner des pensées iniques, comme nous a dit ce chant, comme nous aimons nous éloigner du mal pour nous attacher à Dieu, comme Dieu lui-même peut-être nous l'a dit à certains moments dans notre vie, à certaines étapes de notre conversion, lorsque nous avons voulu nous approcher de lui. Peut-être que Dieu aussi nous a dit, mais tu vois, il y a des Jébusiens, il y a des choses dans ta vie qu'il faut que tu abandonnes, il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tu ne peux pas faire alliance, tu ne peux pas t'allier, tu ne peux pas garder cela en toi, parce que tôt ou tard, ça va créer un problème. Et le peuple d'Israël avait ce même commandement. Et on voit qu'ils n'ont pas pu les chasser. Alors ils ont habité, ils ont cohabité ensemble. Et on pourrait se dire, mais tout va bien. Tout va bien. Je cohabite avec les Jébusiens, je n'arrive pas à m'en débarrasser, alors je l'accepte. Je n'arrive pas à vaincre ceci ou cela dans ma vie, alors je baisse les bras. Je reste avec ce péché. Je reste avec cette chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Et puis après tout, tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Excusez-moi de le dire comme ça, tout ne va pas bien. Vous savez, ornant, une des significations, il y a beaucoup de significations, mais une des significations, ça signifie « la lumière fut perpétuée ». La lumière fut perpétuée. Il y a une lumière. Et le problème, c'est que quelquefois, ce n'est pas la bonne lumière qui est en nous. Ce n'est pas la bonne lumière que nous avons perpétuée au fil des jours. Ce n'est pas la bonne lumière qui éclaire nos pas. Si la parole peut être comparée à une lampe qui éclaire notre chemin, est-ce qu'il n'y a pas quelquefois dans notre vie, dans notre existence, d'autres lumières qui viennent éclairer notre chemin, qui viennent éclairer nos pas ? Pour nous faire croire que tout va bien, pour nous faire croire que nous sommes sur le bon chemin, dans la bonne direction, alors que nous nous trompons. Il y a ce texte dans Matthieu, chapitre 6, versets 22 et 23, on le connaît, « L'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres. Si donc tu perpétues une lumière qui n'est pas de Dieu dans ta vie, si tu penses que tu peux rester comme ça tous les jours de ton existence, tu te trompes. Combien seront grandes ces ténèbres ? Parce qu'à un moment donné, on va être confronté à une situation qui va révéler la véritable nature de cette lumière. Et nous ne voulons pas être confondus, nous voulons être amenés à glorifier le Seigneur, à pouvoir mettre des autels, et on va y venir, là où peut-être nous n'avons jamais réussi à régler les situations. Et Dieu, je pense qu'il savait, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il va dire à David, « Mais va sur l'air, d'ornant le Jébusien, et là, mais fais un autel, fais des sacrifices, apporte tes actions de grâce, là où peut-être tu n'as pas réussi à remporter la victoire. » Apporte des actions qui viennent de la lumière d'en haut. Viens apporter la lumière divine dans ta vie, peut-être dans les recoins de ton être qui, semblerait-il, sont éclairés, mais pas de la bonne lumière. Ça peut symboliser peut-être pour nous des compromis, des choses que nous avons dit, mais je m'en occuperai plus tard. Peut-être que David disait, mais on verra plus tard les Jébusiens. On verra plus tard, on verra demain, on verra après-demain. Mais je pense qu'il y a un moment donné, et les mots du Seigneur, ça a été, mais là, c'est aujourd'hui. Il faut que tu ailles là-bas. Il faut que ce problème soit réglé pour la suite, pour Salomon, et on le verra, pour ton royaume, pour la royauté, pour Dieu. Ne laissons pas des compromis. Ne nous trompons pas nous-mêmes. En disant, mais tout va bien, tout est clair, je suis éclairé de la lumière de Jésus-Christ dans ma vie, alors qu'il y a quelques parts d'ombre en nous. Lorsque David va voir l'ange, il va y avoir la repentance dans son cœur. Lorsque Ornan le Jébusien va voir l'ange, il va y avoir la fuite pour lui et ses fils. Il y a deux actions et toute notre vie, toute notre vie, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu place devant nous un choix, lorsque Dieu révèle peut-être des choses qui ne sont pas encore réglées, on peut se comporter comme Ornan, on peut fuir, on peut aller se cacher, on peut aller là-bas pour dire peut-être que là, le Seigneur va me laisser tranquille. Ou alors on peut être comme David, manifester la repentance, parce que c'est la repentance qui va nous amener à voir le feu de Dieu descendre sur l'autel, à voir le feu de Dieu venir dans notre vie, la présence du Saint-Esprit, la sainteté, à voir l'approbation de Dieu. Je ne sais pas si ça vous intéresse, que votre vie soit approuvée de Dieu, de remporter des victoires dans la prière, de remporter des victoires là où le Seigneur nous a placés. Les jeunes, peut-être pour vous, de pouvoir dire, mais moi je décide de marcher dans la pureté, même si c'est dur, même si c'est compliqué, je décide de rester attaché à Dieu. David va obéir, vous savez. David avait toujours ce cœur, cet amour pour Dieu, et était toujours enclin à obéir prompt, à écouter la parole de Dieu. Et c'est là où vraiment il va y avoir ce choix. Parce que Ornan le Jébusien, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, ça pouvait être quelqu'un de sympathique. Mais David savait que là, il fallait que les choses soient réglées. Et David savait que la vie chrétienne, ça doit coûter. Que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Bien sûr, vous allez me dire, mais pasteur, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. On n'a rien payé, mais c'est Jésus qui a payé, c'est Jésus, qui ça lui a coûté à Jésus. Et je ne sais pas si vous avez la même parole que moi, mais on est appelé à marcher sur les pas du Seigneur Jésus-Christ. Et si Jésus a été persécuté, c'est que nous aussi, on va être persécutés. Si Jésus a souffert, nous aussi, on va souffrir. Et si Jésus avait cette intimité avec le Père, nous aussi, nous sommes appelés à avoir cette même intimité avec le Père. Et si Jésus a voulu payer le prix, automatiquement, dans notre vie, dans notre existence, en tant que chrétien, si on s'intéresse, il faut comprendre cela. C'est qu'à un moment donné ou un autre, ça va nous coûter. Mais pour une bénédiction, pour l'approbation de Dieu, ça ne va pas nous coûter. Dieu, nous n'avons pas un Dieu qui va dire, mais voilà, j'ai envie que ça soit difficile pour toi, et puis c'est comme ça, tant pis pour toi. Si ça nous coûte, c'est parce que derrière, Dieu peut-être veut nous amener plus loin avec lui, à considérer sa sainteté, à considérer un travail qu'il veut que nous puissions faire ici-bas, avec son approbation, pour que nous puissions faire ensemble avancer le royaume de Dieu. David va arriver sur l'air. Et Ornan va lui dire, mais voilà David, ne t'inquiète pas, je te donne tout. Prends les bœufs, prends le char, prends le froment, tu n'as rien à dépenser, tu n'as rien à donner. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui le donne, mais on s'arrange comme ça, Et David n'était pas du tout dans cet état d'esprit parce que dès qu'il arrive, il dit « Cède-moi pour son prix. Cède-le-moi pour son prix. » David, c'était le roi, il aurait pu arriver en disant « Écoute, Ornan, je vais te délocaliser, je vais te trouver un autre endroit pour mettre ta petite entreprise, je vais prendre cet endroit parce que j'en ai besoin. » Il aurait pu le faire, mais ce n'était pas ce que Dieu lui demandait. Et on peut essayer de trouver des compromis, on peut essayer de s'arranger, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Parce qu'il y aura toujours cette voix, cette pensée d'Ornan le Jébusien, en train de nous dire, mais ne t'inquiète pas, on peut mélanger les choses. On peut mélanger le bœuf qui vient de chez moi, qui vient du monde. On peut prendre quelque chose du monde pour l'offrir à Dieu. Ne t'inquiète pas. On peut prendre nos pensées pour les mélanger à la parole. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas, tu peux arriver à faire ta propre religion. Écoute, je te donne tout. Tu peux arriver à faire ce que tu veux. On va s'arranger. Et c'était ça ce que Ornan le Jébusien était en train de proposer à David. De proposer ce qui était à lui pour offrir un sacrifice à Dieu, de proposer ce qui était dans le monde pour offrir à Dieu, de proposer ce qui ne coûte rien, de proposer des choses qui sont purement mondaines, une manière de penser, une manière d'appréhender les choses qui viennent de l'esprit de ce monde. Mais David ne va pas accepter. Et peut-être que nous, on doit considérer ce que David est en train de dire. Non. Je ne veux pas d'une vie chrétienne qui ressemble au monde. Je ne veux pas d'une vie chrétienne avec l'esprit, l'idée de ce monde où tout doit être au rabais, tout doit être dans l'instantané, tout doit être dans des promotions. Je ne veux pas d'une promotion spirituelle. Je ne veux pas payer 50% sur ma sainteté. Vous comprenez ces images ? David a dit non. Non, je ne vais pas présenter à l'Éternel ce qui est à toi, parce que ça doit venir de moi. Je ne vais pas offrir un holocauste qui ne me coûte rien. La vie chrétienne, ça doit coûter, ça coûte. La sanctification, ça coûte. La pureté, ça coûte. Vouloir passer du temps dans la prière, ça coûte. Vouloir lire la parole de Dieu, ça coûte. Vouloir être proche de Dieu, ça peut coûter. Il y a des moments, c'est tellement bien, mais est-ce qu'on base notre vie chrétienne, notre vie spirituelle uniquement lorsque tout va bien, lorsque c'est des rafraîchissements, et lorsque c'est un peu plus difficile, on abandonne tout, on baisse les bras? Je pense que David avait compris cette réalité. Et Dieu voulait amener à David à comprendre que là, peut-être les choses qu'il avait laissées perdurer, les choses qui n'avaient pas prêté attention. Il fallait là qu'il monte un autel. Il fallait qu'il y ait un renouveau. Et peut-être que nous, mon frère, ma sœur, on a besoin d'un renouveau. On a besoin peut-être de se consacrer à nouveau. Peut-être qu'on a laissé des choses de côté en disant « mais je verrai plus tard ». Mais Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous puissions avoir la victoire. Dieu veut que nous puissions mettre un autel sur des airs qui sont là dans notre vie. Peut-être pour la prière, pour le témoignage, l'intercession, notre consécration, notre manque d'amour qui est là. On s'aperçoit qu'on manque d'amour et on se dit « ah, mais je verrai plus tard, peut-être c'est parce que je suis fatigué, on a moins de compassion ». Et on se dit, mais je verrai plus tard. Je pense que Dieu veut que nous puissions avoir la victoire dans tous ces domaines de notre vie. David n'a pas voulu accepter de prendre ce qui était à Ornan, le Jébusien. C'était un peuple qui était infâme aux yeux de Dieu. David n'a pas voulu de compromis. David n'a pas voulu s'allier avec Ornan, le Jébusien. David savait que ça devait venir de lui. David savait qu'il devait payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions connaître le bonheur, pour que nous puissions connaître la joie, pour que nous puissions dire avec assurance, je suis sauvé. Si Jésus-Christ revient ce soir, demain, je sais que je vais partir avec lui. Et s'il y a dans ce lieu des bien-aimés qui n'ont pas cette assurance, payez le prix peut-être, pour certains ça va être la repentance. Mettons notre orgueil de côté. Peut-être que certains vont dire, mais moi je vais pas craquer moi. Moi, je vais pas demander pardon au Seigneur, parce qu'après tout, j'ai une vie tellement difficile. Peut-être qu'il faut commencer à mettre notre orgueil de côté, parce que pour Jésus, ça a coûté notre vie. Pour Jésus, ça lui a coûté la vie. Il s'est dépouillé, vous savez. Jésus-Christ ne s'est pas dépouillé la semaine de la Passion. Ça n'a pas été, il n'a pas vécu sur terre et ça n'a pas été une épreuve, une difficulté, uniquement une semaine avant la croix. Mais sa passion, c'est nous, et sa passion, elle a commencé le jour où elle est venue au monde, où il a pris la forme de l'humanité pour venir marcher dans ce monde depuis tout petit jusqu'à la croix. Jésus-Christ s'est humilié pour que nous puissions comprendre qu'à notre tour, nous devons peut-être accepter quelquefois de payer le prix. L'Éternel, et je terminerai bientôt, l'Éternel va parler à l'ange, et c'est par le feu. Remets l'épée dans ton fourreau. Laisse l'épée. Et vous savez, je ne sais pas, peut-être que David, est-ce qu'il avait cette assurance que l'Éternel allait donner cet ordre? Peut-être qu'il se disait, mais ma place, moi, je me suis repenti, j'ai offert l'autel, et si Dieu veut continuer, mais peut-être qu'il continue. Et je pense que la compassion de Dieu, c'est ça. C'est que lorsqu'on accepte de payer le prix, lorsqu'on accepte de faire ce que Dieu nous demande, même si ça coûte, il y a un moment donné où Dieu va dire, mais voilà, je vais répondre par le feu, je vais arrêter, je ne vais pas m'éloigner pour toujours, je ne vais pas rester loin pour toujours. Le désir de Dieu, c'est qu'il vienne et on soit proche de lui, il y ait cette intimité. Et Dieu va répondre par le feu. Je vais conclure, parce que je pense que c'est ça qui doit vraiment marquer notre cœur. Parce que vous savez, cet air, l'air de Ornan le Jébusien, ça a été un endroit particulier après. Ça a été un endroit marquant dans l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est dans Deux Chroniques, chapitre 3, on va lire les deux premiers versets. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la quatrième année de son règne. C'est la bénédiction de Dieu, c'est l'approbation de Dieu pour notre vie. On pourrait le résumer, et je terminerai vraiment avec cette pensée, parce que vous voyez, si Dieu avait dit à David, « Mais écoute, David, va présenter ton offrande, là où Moïse avait prévu l'autel, là où c'était le lieu habituel pour offrir les holocaustes. » David y serait allé. Peut-être que l'ange de l'Éternel, et on peut dire sûrement, il aurait remis l'épée dans son fourreau, la peste serait arrêtée là, la mort se serait arrêtée. Mais David, Israël, Salomon serait passé à côté de cette bénédiction. Et il y a des fois dans notre vie où peut-être qu'on se met, on croit que l'on est en danger. On croit qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas les plans de Dieu, on ne comprend pas ce que Dieu veut, où Dieu veut nous amener. Mais laissez-moi vous dire que Dieu voulait que David, que le Israël règle ce problème avec les Jébusiens. Et peut-être que Dieu veut nous amener à régler ce problème parce qu'il y a un temple, il y a un temple, notre vie c'est le temple de Dieu, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons comprendre que ce que nous sommes, dans son intégralité, sans jardin secret, sans compromis, sans lumière qui n'est pas de Dieu, c'est appelé à manifester la gloire de Dieu. C'est appelé à, là où nous sommes, propager l'évangile, propager la bonne nouvelle, témoigner, prier et voir les malades être guéris. C'est ça notre vie. C'est ça qui est attaché à nous. C'est de voir le royaume de Dieu avancer. C'est de voir des vies transformées, c'est de voir nos proches, nos collègues de travail, nos familles être bouleversées parce que notre vie est un temple. Notre vie reçoit l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de bouleverser et de transformer. Salomon va bâtir le temple sur l'aire d'Ornan le Jébusien, là où le péché a abondé, la grâce à surabonder. Là où le diable essaye de nous tenir asservis, là où le diable essaye de nous tenir dans la culpabilité, en nous disant « Mais de toute façon, tu n'arriveras jamais à vaincre les Jébusiens de ta vie. » La grâce de Dieu est là, toujours pour nous rappeler que c'est possible parce que ça a coûté pour Jésus-Christ. Parce que ça a coûté, Jésus a payé le prix de sa vie. Pour que nous puissions, nous, dire « Oui, la grâce de Dieu vient surabonder dans ma vie, pour que je sois un temple, pour que je sois le temple de Dieu. » Et je pense que si nous vivons cela, alors nous pouvons espérer voir dans ce lieu venir les personnes pour lesquelles nous avons témoigné, venir dans ce lieu des personnes rendre témoignage parce que nous aurons prié pour elles. Voir des choses que peut-être nous avons oubliées, qu'elles existaient, que c'était possible. Peut-être que nous oublions que les malades peuvent être guéris, que le Saint-Esprit peut descendre encore. Peut-être que nous oublions beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire que notre vie, que Dieu n'en a pas fini avec nous et que son désir, c'est que nous puissions rester et demeurer jusqu'au bout attachés à lui pour que nous soyons son temple et qu'il puisse manifester sa gloire au travers de notre vie. Amen. Amen. On peut prier un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Seigneur, nous voulons être fixés sur toi cet après-midi. Aide-nous. Aide-nous à être honnêtes avec nous-mêmes. Aide-nous à ne pas prendre la fuite face à ta parole, face à ce que tu nous demandes, à ne pas nous cacher. Seigneur, mais à agir comme David. Nous voulons nous repentir, nous voulons considérer lorsque nous avons mal agi, lorsqu'il y a dans notre vie des choses qui n'ont pas été réglées. Nous voulons t'offrir un autel. Nous voulons t'offrir notre vie, ce qui coûte. Nous voulons offrir nos corps, Seigneur, parce que c'est ce que tu nous demandes, t'offrir ce que nous sommes. Aide-nous, secours-nous à comprendre que le prix que tu nous demandes est tellement infime par rapport à ce que Jésus a payé. Seigneur, c'est tellement, tellement une bénédiction de pouvoir te suivre. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu veux faire encore avec nous. Oui, Seigneur, c'est les temps de la fin. Oui, Seigneur, à un moment donné, selon ta parole, tous vont s'assoupir, mais nous voulons veiller et prier parce que c'est à cela que tu nous engages, que tu nous encourages. Aide peut-être un bien-aimé à comprendre que se cacher, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de se repentir. Aide quelqu'un à comprendre que tu veux donner la victoire, que tu veux nous amener à marcher dans la pureté, dans la sainteté, parce que tu es un Dieu saint. Et ce que tu veux, c'est notre sanctification. Merci Jésus-Christ d'avoir payé le prix. Merci d'avoir accepté cette couronne d'épines, d'avoir accepté d'être percé, d'être humilié, d'avoir accepté qu'on te crache dessus pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions être lavés, purifiés. Merci Jésus-Christ. Amen.